eh bien, elle se connaît comme étant elle l'être. Hein? La pensée de l'homme dans le discours philosophique, eh bien, se découvre comme étant la vérité se parlant à elle-même à travers l'homme. Ben, chez le philosophe sérieux, je ne dis pas qu'il se prend au sérieux, chez le philosophe sérieux, eh bien, il expose le discours de la vérité se parlant à elle-même à travers lui. Et je crois que le cas limite de cette aventure philosophique, c'est Spinoza. L'exposé de Spinoza nous est très intentionnellement donné comme tel. C'est la vérité se parlant à elle-même à travers la pensée de Spinoza. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est vrai aussi pour tous les autres philosophes. C'est-à-dire, dans la problématique philosophique, l'homme se découvre comme étant lui-même l'être. Et par conséquent, la moralité qu'il découvre dans son expérience de vie, dans son expérience d'existence, la moralité n'a pas pour finalité de lui assurer l'être, puisque l'être, il le possède déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle la conscience philosophique a une certaine tendance à faire servir la moralité à autre chose que sa finalité naturelle, si j'ose. La finalité naturelle de la moralité, selon l'expérience traditionnaliste, est précisément de nous permettre d'acquérir l'être. Et là, nous retrouvons tout le vocabulaire talmudiste. Voilà. Le fait d'avoir réalisé une valeur a pour résultat kinyana olam, kana olamo. Le fait d'acquérir son propre être. Et cela renvoie, bien entendu, à la prise de conscience de soi comme être créé. La prise de conscience de soi comme être créé. Et qui a été, vous vous en souvenez pour ceux qui ont suivi les cours des années précédentes, qui a été l'expérience fondamentale d'Abraham. Abraham est le premier homme se découvrant comme créature. Et par là même découvrant la moralité. Se connaître comme créé, cela signifie très profondément se connaître comme ayant reçu l'être de quelqu'un d'autre que soi. Et précisément, c'est par là qu'est la découverte de la moralité et surtout de la finalité de la moralité comme devant assurer l'acquis, le mérite de l'acquis de l'être. Si vous voulez, à la limite, je ne dirais pas l'homme juif ou le juif, mais l'homme de l'expérience hébraïque, biblique, a conscience de soi comme n'existant pas encore, comme étant occupé à une existence quasi embryonnaire et dont précisément la finalité est de le mener à l'existence réelle, que nous appelons celle du monde à venir. Et ceci peut nous renvoyer d'autre part à une certaine expérience phénoménologique de l'existence. C'est-à-dire il y a en nous une trace, en préfiguration, une trace de ce qu'a à être notre monde, mais ce n'est qu'une trace préfigurative. Et ce que nous expérimentons dans le monde de l'existence, selon la cohérence talmudique, c'est une sorte de préambule à l'être. L'existence, telle que nous la connaissons, et qui se définit par le problème moral, c'est un préambule à l'être. Nous sommes, comme dit le Pirkei Avot, dans le péristyle de la demeure. Enfin, nous sommes dans le péristyle de la demeure. Nous sommes dans le préambule de l'être. Nous sommes occupés à une certaine vie embryonnaire à l'intérieur de laquelle, progressivement, et c'est ça l'ordre des valeurs, nous pressentons le monde qui nous est destiné, le monde d'être qui nous est en quelque sorte promis. Et il faut l'acquérir. Et là encore, nous risquerions de basculer dans la conscience tragique si nous oublions qu'il y a quelqu'un qui surveille cette marche, qu'il y a quelqu'un qui surveille cet apprentissage. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, la morale prise au sérieux ne peut l'être que dans une perspective religieuse qui se prend au sérieux. Parce que le drame, si vous voulez, de l'expérience religieuse courante consiste précisément à ne pas se prendre au sérieux. Je vous racontais enfin une petite histoire qui me revient à l'esprit, une anecdote, pas une histoire que j'ai lue dans Sélection, je suppose, mais simplement pour illustrer ce que je vais vous dire, enfin c'est l'histoire du pasteur qui avait convoqué ses fidèles pour prier pour la pluie, et puis qui a fait un sermon pour leur reprocher d'être complètement athées parce qu'ils n'avaient pas amené leur parapluie. C'est finalement ça le fond des choses. C'est que la plupart du temps, la conscience religieuse ne se prend pas au sérieux. Et il s'agit effectivement de prendre au sérieux le fait que c'est quelqu'un qui m'a créé, Et par conséquent, qu'au bout de la marche d'apprentissage qui me mène vers l'être, eh bien, j'avais presque vous parler comme un pasteur. Nous ne serons pas abandonnés. Et voilà, c'est ça qu'il faut finalement prendre au sérieux. C'est donc la finalité de la moralité qui a une toute autre portée. Et pour le philosophe, en aucun cas, la moralité n'a pour finalité de faire acquérir l'être, puisque le philosophe s'est découvert comme étant. C'est dans la perspective de l'expérience religieuse que la moralité est découverte comme quelque chose de très sérieux, parce que sa finalité est de faire obtenir l'être. Et c'est cela la notion du salut, telle que l'a entendue la tradition hébraïque. Voilà, je pense que c'est, grosso modo, ce que nous avons déjà appris dans les analyses qui ont précédé. Bien. Vous avez la parole, oui. Ce qui nous vient à l'esprit dans ces analyses, c'est que le judaïsme a l'habitude, ou la pensée juive a l'habitude de se définir par rapport à des limites qui sont celles de l'expérience culturelle occidentale, avec une limite d'un côté qui serait l'islam, une autre limite qui serait la chrétienté, et qu'on laisserait toujours dans l'ombre les expériences culturelles, en particulier extrême-orientales. En réalité, il n'en est rien. Les expériences telles qu'elles sont, qui sont le propre de la conscience extrême-orientale, ne sont pas loin par rapport à l'expérience de l'homme de la Bible. Elles sont antérieures. Les doctrines, je n'ose pas dire les philosophies, parce que ce ne sont pas exactement des philosophies. Ni non plus les mystiques, ce ne sont pas exactement des mystiques. Ni non plus des religions, ce ne sont pas exactement des religions. Mais enfin, si vous voulez, les doctrines concernant ce problème, telles qu'elles sont le propre des traditions extrêmes orientales, procèdent d'une expérience humaine antérieure à la constitution de la conscience hébraïque et qui s'est perpétuée par une sorte de phénomène de rémanence, bien entendu, mais avec son enrichissement propre et son histoire propre. Et en fait, il y a là aussi analogie. Vous avez parlé de la métempsychose, enfin, je crois qu'il faudrait plus exactement parler de la réincarnation. Le problème de la métempsychose ne nous permettrait pas de faire cette analogie. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse dire que dans la tradition juive, on aille jusque à la notion de la métempsychose. Réincarnation, certainement. Mais quand même, il y a une grande différence. Il y a une grande différence, c'est que l'objectif de la moralité, ou de ce que l'extrême oriental appellera la moralité, parce que d'autre part, encore une fois, il ne dispose pas d'une charte des valeurs, d'une carte des valeurs, d'une table des valeurs dont il soit assuré qu'elle soit vraiment l'intention du Créateur. Il n'y a pas de révélation dans le sens de l'expérience prophétique biblique dans les traditions extrêmes orientales. Eh bien, l'objectif, c'est précisément de perdre l'être et non pas de l'obtenir. Si on pose jusqu'au bout la perspective de la conscience extrême orientale, eh bien, le malheur vient précisément, je pense en particulier en gros plan à l'hindouisme, puisque c'est quand même, malgré tout, la doctrine qui a eu le plus d'envahissement dans le monde de la culture occidentale. Le malheur vient de l'être, du fait que je sois une personne, un quelqu'un, du fait que je sois un jeu qui ressent. Si je n'étais pas un quelqu'un, une personne qui ressent, bien, je ne ressentirais pas le malheur. Et le bonheur, c'est finalement de pouvoir être à la manière du non-être. Enfin, j'essaye de vous décrire les convictions de la conscience bouddhiste. J'ai dit tout à l'heure hindouiste, je m'en excuse, c'est du bouddhisme que je voulais parler. C'est très différent. Enfin, c'est bien du bouddhisme que je veux parler. Eh bien, il y a là un tempérament radicalement différent. Enfin, chez l'oriental, chez l'extrême oriental, on se conduit bien dans la vie afin de ne pas revivre, afin qu'après il n'y ait rien. Enfin, alors que pour l'occidental, c'est l'inverse. Je ne sais pas si on pourrait dire le contraire, mais en tout cas c'est l'inverse. Et pour l'occidental, on se conduit bien dans la vie afin de persévérer dans son être. Est-ce que ceci est bien clair, hein? Afin effectivement d'acquérir et d'obtenir. Je crois que l'idéal d'une perspective telle que je viens de la décrire et à laquelle vous avez fait allusion, c'est précisément de faire que la chaîne des réincarnations s'achève, ben que la chaîne des avatars, comme on dit dans ces doctrines, s'achève et qu'on ne soit plus quelqu'un et que l'on puisse être de nouveau, je schématise bien entendu, fondu dans le grand tout, dans l'être en soi. Il y a là, si vous voulez, une analogie uniquement formelle. Mais bien entendu, vous avez raison de dire que pour la tradition hébraïque, tant que l'être, et non pas la voix, tant que l'être n'est pas parachevé, eh bien, il y a remise en jeu dans l'histoire de la personnalité que nous étions tous à l'origine, à l'intérieur du premier homme. Sans deux perspectives de réponse à ce que vous dites, d'ailleurs, votre question est pertinente. La première, c'est que vous n'ignorez pas, et je n'ignore pas non plus, les origines, enfin, la partie de filiation hébraïque et juive d'une telle doctrine, vous parlez du marxisme. Hein? Et je reviens très rapidement à une des analyses précédentes, n'est-ce pas? Il y a, je cherche un terme plus précis, mais enfin, il y a Malzone dans la confrontation entre la pensée traditionnelle juive et les cultures occidentales. Il y a Malzone, parce que dans leurs principes, sont déjà en filiation, plus ou moins reniée, plus ou moins inconsciente, sont déjà en filiation de l'éducation biblique. Il y a dans toutes les expériences de la culture, je dis bien occidentale, je ne parle pas de la culture grecque originelle, de la culture romaine originelle, mais je parle de la culture occidentale qui en est dérivée, dans toutes les doctrines, en tout cas celles que j'ai pu plus ou moins connaître, je veux dire que ce soit l'existentialisme, que ce soit les différentes sortes d'humanisme, que ce soit le bergsonisme, qui est une doctrine en soi, que ce soit le marxisme, les différentes sortes de doctrines socialistes, il y a déjà des attendus qui sont empruntés à l'expérience biblique. Je voudrais que ceci soit bien clair pour me permettre de continuer l'analyse. Il y a Maldon. Il faut procéder chaque fois à un phénomène d'élucidation, de démystification, de l'argumentation opposée à la tradition hébraïque et qui, dans beaucoup de cas, lui emprunte ses propres armes, si j'ose dire. Est-ce que c'est bien clair? Bien. Et la deuxième réponse, c'est que l'analogie, enfin, l'apparence d'analogie, vient de ce que la tactique marxiste, du point de vue idéologique, la tactique idéologique consiste à faire prendre l'idéologie marxiste pour une morale. Alors que ce n'est pas une morale, c'est une sociologie. Et je m'explique. Et je me réfère là à un auteur, à un penseur marxiste français, Henri Lefebvre, pour le citer, qui est peut-être contesté dans certains milieux d'orthodoxie marxiste, mais enfin, de qui j'ai beaucoup appris personnellement, et qui m'a aidé à éclaircir ce que je vais essayer de vous dire maintenant, c'est ceci. Je crois que c'est une façon de parler, de dire que l'objectif du marxisme est un objectif de moralité. Il est bien évident qu'il y a tout un vocabulaire de la tactique idéologique marxiste qui consiste à emprunter des intuitions, parfois proches, mais souvent identiques, aux intuitions de la conscience morale. Mais c'est une contre-vérité de dire que l'objectif de l'idéologie marxiste est de faire triompher la morale dans le sens classique du terme, dans le sens traditionnel du terme. En réalité, l'objectif, c'est la répartition des jouissances, c'est la répartition du bonheur. Et nous retrouvons un système de type sociologique. Et c'est la répartition de la jouissance, la plus grande quantité de jouissance pour chacun et pour tous, qui est érigée en vertu. C'est un des systèmes de la morale philosophique, mais qui est très conséquent avec lui-même, et qui, dans le fond de son orthodoxie réelle, se dévoile comme étant une stratégie de la recherche du bonheur, beaucoup plus, et je dirais, et pas du tout, une stratégie, une lutte, de la recherche du triomphe des valeurs morales. Il est bien évident que la découverte de ce fait, que le problème moral ne se pose pas seulement à la conscience privée, j'en arrive à la fin de votre intervention, que le problème moral ne se pose pas seulement à la conscience individuelle, à la conscience privée, parce que un certain nombre de siècles de la culture occidentale n'avait fini par connaître qu'une psychologie individuelle, donc une morale individuelle, et bien que la découverte du problème social, je dirais plutôt que le problème moral se pose aussi au niveau de la société, ceci a séduit énormément de conscience, et c'était tout à fait normal. Et c'était tout à fait normal d'avoir à redécouvrir que le problème moral se pose aussi et surtout au niveau du fait collectif et du fait social. Mais il y a là, je crois, une apparence d'analogie, encore une fois. Je suis persuadé, parce que je le sais par expérience, je connais beaucoup de marxistes qui savent penser leur propre foi, leur propre doctrine. Je sais que beaucoup de marxistes sont des hommes persuadés que leur objectif est de faire triompher les valeurs morales, mais ils savent aussi que le marxisme comme tel n'est pas du tout une doctrine qui s'assigne, qui s'est assignée le triomphe des vertus morales, mais celui des réalités, la mise en ordre des réalités sociales. Et ce sont deux projets très voisins, mais quand même différents dans leur essence. Et alors là, nous retrouvons, plus profondément encore peut-être que les termes que vous avez employés, nous retrouvons très, très réellement une intuition messianique, que l'homme sera en fin de compte. Hein? Que, comme vous avez dit, nous sommes dans j'ai dit préambule, vous avez dit prolégomène, enfin, le Talmud disait déjà vestibule, hein? que nous sommes effectivement, et la Kabbale va plus loin, elle dit nous sommes un fœtus, hein? Nous sommes vraiment à l'état embryonnaire, mais nous sommes un fœtus qui a déjà l'intuition de ce qu'il verra lorsque l'accouchement aura réussi, enfin, je veux dire, lorsque la mise au monde au vrai monde aura réussi. C'est l'intuition messianique que nous retrouvons dans ce qu'a été l'énergie de la doctrine marxiste, avec cette grande différence que le sort individuel reste absolument obscur. Le sort de la personne individuelle reste un mystère dans la problématique marxiste. Ben, je sais très bien que cette phrase « les générations ne sont que le fumier de l'histoire », c'est-à-dire que finalement tout ça, ça vaut les chenabas, d'accord, toujours une génération après. Et pour la dernière génération, c'est bien que ça ne vient pas des penseurs marxistes, ça vient de Mussolini, ça vient du fascisme, mais enfin ça ressemble beaucoup. Il y a là quand même une, sans jeu de mots d'ailleurs, il y a là une dialectique, ça va, de l'élan messianique, mais qui finalement ne sert à, n'a de sens pour que, uniquement, la dernière génération de l'histoire humaine. Et finalement le sort de l'individu qui a posé son problème est remis entre parenthèses dans une très grande obscurité. C'est moi l'homme qui vit maintenant, et non pas l'homme de la dernière génération qui pose mon problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a là quelque chose que je ne suis jamais arrivé à comprendre. Peut-être que ça se dévoilera un jour. Comment ces centaines de millions de consciences marxistes, hein, il y a des centaines de millions de consciences marxistes, n'ont pas décelé l'inadvertance de la doctrine, hein, qui consiste, d'autant plus que l'idéologie est d'autre part métaphysiquement matérialiste. C'est qu'une conscience marxiste se prenant au sérieux sait très bien qu'après la mort, il n'y a rien du tout. Dans l'univers marxiste, il n'y a pas d'au-delà de la vie individuelle. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Et par conséquent, il y a là une doctrine qui lance l'humanité vers les lendemains qui chantent, enfin, pour reprendre les termes classiques, mais les lendemains qui chantent, qui ne chanteront que pour un homme autre que moi, et pour un homme qui sera toujours l'autre de tous, puisque c'est le dernier, et qu'il n'y aura jamais de dernier dans l'univers marxiste. Je vous comprends, il y a là un mystère, n'est-ce pas, dans la cohérence marxiste. Le mystère, c'est que, j'allais dire qu'aucun marxiste ne s'en soit aperçu. Non, le mystère, c'est qu'il s'en aperçoit, mais qu'il n'y a aucune réaction de conscience à ce sujet. Bien, est-ce qu'il y a une différence, si vous voulez. La dialectique, si j'ose dire, est entre l'être en devenir et l'être devenu. Hein? Et quel que soit le degré, l'être en devenir n'est que de l'être en devenir et pas encore l'être devenu. Il y a une différence radicale de nature. Alors si l'exigence de la conscience est l'être devenu, eh bien cela se situe à un niveau avec solution de continuité avec l'être en devenir. Et quel que soit le progrès du progrès, eh bien ce n'est rien à côté de ce qui est visé dans l'espérance de l'être devenu. Ou je veux dire, pour employer une image purement visuel, pas encore à 15 cm du rivage, on est encore en train de se noyer. Alors, est-ce que je me suis bien fait comprendre? Il y a vraiment là une différence de nature dans les deux positions. Si Bien, en tout cas, revenons à notre... si vous voulez, en d'autres termes, c'est bien entendu le problème du salut de la personne de chacun. Et puis dans tous les cas, le problème qui se pose à mon fils, c'est mon fils devenu adulte qui se le posera pour lui, et ce n'est pas le mien, à partir du moment où mon fils devenu adulte est quelqu'un qui n'est pas moi. Ben, il y a une toute autre problématique de l'ordre de Talmud à très loin. Il dit que cette relation de responsabilité et par conséquent transmission de l'acquis de l'expérience y compris, c'est dès qu'un enfant est capable de trouver sa nourriture par lui-même. C'est presque une terminologie marxiste. Et il n'y a pas confusion des personnes, fût-ce entre le père et le fils. Oui.
Peut-être deux sortes de questions. L'une par rapport à la tradition chrétienne.
Le fondement que je voulais assigner aux valeurs morales en opposant l'optique traditionnaliste à l'optique philosophique n'est pas du tout métaphysique dans le sens philosophique. Il me semble avoir employé ce terme de métaphysique pour dire prenant dans son objet le sens de la destinée humaine et non pas dans le sens de la philosophie classique, c'est-à-dire au-delà de l'expérience sensible par exemple ou au-delà de toute expérience de quelque ordre que ce soit. Enfin, disons, la notion du métaphysique telle qu'on la trouve dans le vocabulaire kantien pour revenir à lui, du nous-mêmes inconnaissable. Mais je vous dis tout de suite, la manière dont l'homme de la tradition biblique parle de la révélation et du Dieu qui se révèle dans cette révélation n'est pas du tout nouménale. Il s'agit véritablement d'une connaissance. Et là, nous sommes en plein cœur, si vous voulez, d'un débat extrêmement important qui oppose précisément la perspective théologique kabbaliste à la perspective théologique philosophique. J'ai dit une fois, il me semble que c'est l'année dernière, au congrès des intellectuels catholiques, pour ceux d'entre vous qui y avaient assisté, j'ai dit une fois la chose suivante. C'est que bien entendu, lorsque des théologiens juifs parlent à des théologiens chrétiens, ils disent que Dieu est inconnaissable. Mais lorsqu'ils parlent entre eux, ils disent pas cela. Et oui, nous arrivons au fond du débat. C'est-à-dire que, au fond, la question que vous posez, c'est de savoir si la morale biblique est universalisable. Et vous avez répondu non, en donnant deux arguments. D'une part, parce qu'elle se réfère un postulat fondement des valeurs qu'elle nous donne dans sa propre loi, elle se réfère à un postulat d'ordre métaphysique, c'est-à-dire qui par définition ne peut pas être objet d'expérience, et que d'autre part, cette loi fait partie d'une révélation qui ne parle pas seulement de la loi morale, mais qui parle aussi, qui décrit aussi le processus de révélation de l'être du Dieu dont elle parle dans l'être du monde dans lequel nous sommes, de manière absolument invérifiable par notre expérience habituelle. C'est grosso modo, je crois, les deux arguments que vous avez présentés. Bien, je crois qu'il faut aller déjà un peu plus loin.
Le premier argument, c'est qu'il y a extériorité du fondement métaphysique, enfin de la révélation, par rapport à la valeur morale elle-même.
Oui, mais...
L'argument, justement, vous aviez utilisé contre le fondement théorique des
philosophes. Oui.
Je crois qu'il est aussi applicable au fondement métaphysique.
Oui, mais j'espère avoir déjà dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas du tout d'un fondement métaphysique ainsi entendu. C'est-à-dire que, effectivement, dans l'expérience morale de la conscience hébraïque, religieuse de la religion de la Bible, je dis bien hébraïque, dans cette expérience-là, la morale est connue pour elle-même. Les attributs dans lesquels la divinité se révèle ne sont pas des attributs de nature métaphysique comme chez les philosophes, mais sont des attributs de la moralité. Il suffit d'énumérer ce que l'on appelle en hébreu les shloshesre midot, les 13 attributs par lesquels le Dieu de Moïse se révèle à Moïse. Ce texte se trouve dans l'Exode. Il suffit de lire, n'est-ce pas, ce verset, pour se rendre compte que la révélation de l'identité de celui qui est Dieu, du point de vue de la révélation biblique, est une révélation d'identité dans l'ordre de l'expérience des valeurs morales. Je vous dis la phrase, pour ceux qui la connaissent en hébreu, Hachem, Hachem, El Rachum, Vechanun, Nosheche, Roferesed. Ce sont tous des attributs de l'ordre de la moralité. Encore une fois, je veux dire, lorsque le Dieu de la Bible parle de lui-même, dévoilant les attributs de son identité, il ne dit pas « Je suis l'infini tout connaissant, je suis la vérité se connaissant elle-même ». Vous voyez, des attributs d'ordre philosophique, il dit « Je suis l'être qui est bon, compatissant, juste, etc. »
C'est même le créateur. Le créateur, c'est bien tout de même un être métaphysique.
Ça, c'est une éruption du vocabulaire philosophique. Pour l'homme de la tradition biblique, le créateur n'est pas un être métaphysique. Le créateur c'est le créateur du monde dans lequel nous vivons. Et alors, vous nous menez très rapidement très loin, c'est ça ?
Dans
le Kuzari. Oui. Oui, d'ailleurs, je pense prendre ce texte du Kuzari demain dans l'étude de texte, mais je voudrais terminer l'analyse. Mais voilà où gît le véritable fond du problème. Et c'est pourquoi je vous disais que cette deuxième question était préalable à la première, et j'y retrouvais un peu le cheminement de la pensée de saint Paul avant son chemin de Damas, avant sa révélation chrétienne, celle que je l'avais désignée tout à l'heure, et j'y reviendrai par la suite. C'est le fait que cette expérience est particularisée dans l'histoire. Elle est une expérience connaissable, une expérience de connaissance dans les limites de l'identité hébraïque. Au fond, le problème que vous posez, c'est le problème qui consiste à savoir si l'identité hébraïque est universalisable. Est-ce que c'est bien clair ? Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? C'est que j'ai employé hier des expressions comme, je ne sais pas si c'est l'expression exacte, mais enfin qui ressemble à ceci, il y a finalement nécessité de connaître l'intention du Créateur pour connaître ce qu'est la moralité vraie. Et je vous ai dit immédiatement, mais ça semble être un secret de l'identité hébraïque. Je voudrais, avant de revenir à cette notion de secret de famille, si j'ose dire, d'essayer de l'identifier dans le monde contemporain et par une phénoménologie historique immédiate. Maintenant que, de nouveau, l'identité d'Israël a ressuscité comme société politique, alors on s'aperçoit très rapidement, quelques années, c'est une seconde dans toute l'histoire de la culture contemporaine, on s'aperçoit que c'est finalement la seule société qui est jugée par tous suivant les critères de la moralité. Aucune société n'est jugée par les autres suivant les critères de la moralité, seule la société d'Israël est jugée suivant les critères de la moralité. Comme s'il y avait une sorte de consensus de la conscience universelle, chose qui se reproduit très souvent dans l'histoire des sites culturels, qu'effectivement, si quelque part il y a, si vous voulez, c'est un peu dans le sens de l'expression « noblesse oblige », enfin, si quelque part il y a conscience de la morale, c'est en Israël, et que pratiquement automatiquement Israël est mis en jugement au nom des critères de la moralité. C'est extrêmement frappant, ne serait-ce qu'à la lecture des journaux. Énormément d'invraisemblance de l'attitude politique des nations vis-à-vis d'Israël en général et du peuple juif en général sont très révélatrices à ce sujet. Et je dois vous dire d'ailleurs que le peuple d'Israël en est conscient, et que, bien entendu, la réaction ne peut être qu'ambivalente. D'une part, il en est très fier, mais d'autre part, il sait que c'est insupportable, c'est une crucifixion. Mais je parle d'Israël. Et il y a cela. La Bible nous raconte l'expérience d'une familiarité. Donc, c'est pourquoi j'emploie l'expression de secret de famille. Cela nous renvoie vraiment à une tradition. Dans le sens propre. Le Rav Kook a l'habitude de dire que, au moment où nous lisons la Torah le Shabbat matin, au moment où nous récitons la Torah, et le texte de la révélation dont nous parlons, nous disons d'abord une bénédiction, et cette bénédiction a deux parties, qui se dit exactement ainsi, « Asher bahar banu mikola amim, venatel lano et Torah ». Il y a deux moments. Le premier moment de la bénédiction sur la Torah désigne d'abord l'identité d'Israël comme préalable au fait que la Torah puisse être révélée. Je veux dire que l'identité d'Israël est bien préalable à la possibilité que la révélation de la loi morale dans le monde. Israël a existé avant, l'identité hébraïque a existé avant que la loi lui soit révélée. Et ce sont des textes que nous retrouvons très souvent dans notre liturgie. Je veux dire encore une fois que le véritable problème est le suivant. Et c'est effectivement la contestation de la pensée chrétienne, philosophique déjà, c'est ce que nous trouvons dans le Kuzari, mais la contestation de la pensée chrétienne vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du judaïsme. Et là, je me refais une minute. Là, je me réfère surtout à la réaction du père Danielou concernant ces problèmes, parce qu'il est actuellement, je pense, le spécialiste de l'étude de l'histoire des premiers temps des relations judéo-chrétiennes d'il y a 2000 ans. Et au fond, c'est toujours son thème principal, n'est-ce pas ? Bien entendu, la vérité, c'est Israël. Mais elle est particularisée à un seul peuple. Et la contestation chrétienne consiste à dire il faut l'universaliser, et la dimension d'universalisation serait le christianisme. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais je reviens maintenant à la prétention de l'universalisme des valeurs morales ou du moins de l'universalisation des valeurs morales au niveau de la pensée philosophique. Nous savons tous que c'est un échec absolu. Il s'agit, au fond, de ce que j'appellerais l'échec de l'humanisme. L'humanisme est aussi particularisé. L'humanisme est toujours la projection à l'échelle de l'universel d'une personne humaine très particularisée. Je pense maintenant au vocabulaire personnaliste, n'est-ce pas ? Je me réfère un peu à la critique de l'humanisme par le personnalisme de Mounier, mais en fait, il y a eu une illusion de l'humanisme qui consistait à croire que l'identité de l'être blanc, civilisé, adulte, universitaire, enfin, soit vraiment l'humanité universelle. Et on a projeté sur toutes les personnes concrètes qui font les différents peuples, les différentes sociétés, on a projeté une identité soi-disant universelle, mais qui était en réalité très particularisée, et il s'agissait de l'identité de l'honnête homme blanc du 17e, 18e ou 19e siècle, habitant uniquement les universités d'Europe. Je dis bien les universités parce que même pas les cités européennes, uniquement les académies européennes. Il y a là une illusion, il y a là un échec. La révolution congolaise, l'indépendance du Congo, a été, si vous voulez, le phénomène le plus spectaculaire du défi lancé à la prétention de l'universalisme humaniste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai voulu dire là. C'est de façon très, très congolaise, si vous voulez, que l'identité des autres personnalités humaines s'est affirmée contre les convictions de l'universalisme, de l'humanisme blanc. Et au fond, le véritable problème est le suivant. Est-ce que l'identité hébraïque est universalisable ? Est-ce que nous sommes d'accord ? Parce que là, je voudrais faire...
Parce que la
révélation qui a été reçue par les Hébreux n'est connaissable que par l'identité hébraïque. En fin de compte, je ne crois pas. Ce sont les deux dimensions de la même réalité. C'est ce que nous appelons en hébreu Torah Shebichtav et Torah Shebaalpeh. Hein? Ce sont les deux dimensions de la même réalité. Je vais essayer d'imager tout cela. En langage familial de la tradition hébraïque. Eh bien, cette révélation parle de la charité. Mais qu'est-ce que c'est que la charité ? Il faut le demander à Abraham. C'est Abraham qui nous explique ce qu'est la charité. Elle parle de la rigueur, de la stricteté, enfin de la rectitude. Mais qu'est-ce que c'est que la rectitude ? Eh bien, il faut le demander à Isaac, etc. Les valeurs sont vraiment incarnées. Hein ? C'est, si vous voulez, et c'est aussi une atmosphère extrêmement talmudique, ce thème-là. C'est la manière dont Israël dit que c'est la loi qui est la manière que Dieu approuve comme étant vraiment la loi. Et je vais très loin. Enfin, mais vous découvrez par là tous les postulats fondamentaux de la réflexion talmudique sur la loi. Israël a reçu la loi avec pour fonction de dire que doit être l'application de la loi. Et l'humanité tout entière, à travers son histoire culturelle, a réalisé ce schéma. Elle a chaque fois tenté de réaliser à sa manière, non hébraïque, ce qu'elle avait entendu dire des Hébreux. Et l'épisode du christianisme est un des épisodes à travers l'histoire millénaire de cette émission de la loi, si j'ose dire, par Israël au milieu des nations. Comme dit le verset, « Kimitzion tefet Torah udvar Hashem Yerushalayim ». C'est l'identité hébraïque qui est seule capable d'être homogène avec la révélation qui lui a été donnée. En fin de compte, ce n'est pas pour rien que c'est à ce peuple-là que la révélation de la loi morale a été donnée. Et même pour le philosophe ou le chrétien en tant que philosophe, hein, qui mettrait entre parenthèses l'expérience de la prophétie qui est le fondement de la révélation. Il ne s'agit pas du tout, si vous voulez, d'une intuition métaphysique. Il s'agit vraiment de la voix de quelqu'un d'autre que l'homme qui parle de l'extérieur de la conscience de l'homme. Mais c'est une expérience qui nous est incompréhensible, sauf initiation, depuis que l'événement historique de la prophétie a cessé il y a 2500 ans. Ce qui est la trace de cette prophétie, nous l'avons. Ce sont les textes que nous étudions. Et c'est, si vous voulez, la thèse de l'étude qui nous permet de récupérer cette connaissance de ce qui a été dit par le Dieu qui s'est révélé aux prophètes qui l'ont entendu. Mais si vous voulez, la conviction de l'identité juive est la suivante. La Bible n'est la Bible que lorsque c'est l'identité hébraïque qui la lit. Le seul lecteur de la Bible qui dans sa lecture lit la Bible vraiment quand c'est la Bible qu'il lit, c'est l'hébreu. C'est ça, finalement, la conviction expérimentale qui résulte de l'histoire de millénaires, en tout cas, de la contestation chrétienne en particulier. Si vous voulez, lorsque le non-hébraïque, romain, grec, etc., lit la Bible, il en résulte le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie chrétienne, mais en aucun cas Israël. C'est là que vit cette contestation. Alors je voudrais un peu aller un peu plus loin, si déjà cela est clair, dans l'analyse de votre question, en disant ceci. Ce problème a bien entendu été évoqué dans chaque école et à chaque siècle des études juives. Il n'est pas du tout nécessaire que l'humanité tout entière devienne les Hébreux. Il ne s'agit pas, dans cet universalisme-là, il ne s'agit pas du tout d'impérialisme. Hein? Et j'emploie les termes dans leur sens strict, dans leur sens sociologique. Hein? Il suffit, il faut et il suffit que les nations, effectivement, les nations qui ont entendu la révélation faite à Israël, les chrétiens lisaient l'évangile, c'est-à-dire en grec la bonne nouvelle qui vient d'Israël, que non seulement la morale est possible, le salut par la morale est possible, mais qu'il existe un peuple dont c'est l'histoire, c'est la bonne nouvelle qui a été entendue à travers le monde, et bien que cette bonne nouvelle soit entendue et formulée et incarnée à la manière d'Israël et non pas à la manière d'une autre identité humaine. Au fond, le véritable conflit avec, je parle cette fois de la contestation chrétienne, est un conflit de messianité qui a consisté pendant 2000 ans à opposer la messianité romaine de la Rome antique à la messianité juive de la Jérusalem biblique. Et je pense que nous sommes dans un temps où cette prétention que Israël soit romain ou d'ailleurs anglican ou tout ce que vous voudrez, cette prétention est en train de s'atténuer dans la conscience chrétienne. L'invraisemblance qui consistait pour le romain de s'affirmer être lui, Israël, héritier de l'Israël hébreu face aux juifs, cette prétention est en train de se diluer. Bien, alors maintenant, votre première question. Vous m'avez dit.
Ça veut dire qu'il n'y a pas, que l'Israël ne cherche pas à universaliser son identité hébraïque. Puisque vous l'avez assigné, si j'ai bien compris, il y a une sorte d'impérialisme.
Pas la manière de l'universalisme. Je vous dis quelle est la loi. Quiconque des nations a entendu, comme Jéthro, c'est un verset biblique que je vous cite, et Jéthro a entendu, il est venu. Quelqu'un a entendu Jéthro, il a entendu des choses, il est venu en Israël. Quiconque chez les nations a entendu, comme Jéthro, ce que cette Shmoa Shamartin, comment dit-on, cette bonne nouvelle, Bethora Tova, qu'il y a une bonne nouvelle en Israël, le salut de l'humanité est possible, par la morale, eh bien, quiconque a entendu et vient, la porte est ouverte. Bien entendu, à condition que ce soit sincère, et il devient Israël. Et il fait comme le premier d'Israël, c'est-à-dire Abraham. Abraham a entendu le Dieu d'Israël avant qu'il n'y ait d'Israël, il est devenu lui le premier Israël. Mais il n'est pas nécessaire que cette identité soit communiquée à tout homme qu'il soit. Je crois personnellement que ce n'est pas possible, ce n'est pas praticable. Hein. Il n'est pas possible que tout homme soit membre d'Israël. Non pas parce que les frontières sont trop petites, mais qu'il y collera à rêve, mais parce que c'est une identité spécifique, et qu'à l'échelle individuelle, bien entendu, c'est littéralement conversion de l'identité peut se faire, mais elle n'a jamais été prophétisée ni souhaitée pour l'humanité tout entière, ça n'est pas nécessaire et d'ailleurs ça n'est pas possible. Cet universalisme doit se réaliser, et se réalise d'ailleurs, en dépit de tout, à travers les diasporas d'Israël. On a souvent parlé de la rivalité de la chrétienté et du judaïsme comme la rivalité de deux Israëls. Il y avait là une erreur, plus que de vocabulaire, c'était la rivalité de deux diasporas d'Israël, une qui continue à se réclamer de l'être hébreu et de Jérusalem, et l'autre qui se réclamait de l'être romain et de Rome. Et...
On entend souvent dire que le christianisme est une hérésie hébraïque.
Si le christianisme se présente pour la vraie religion d'Israël, alors elle est une hérésie. Si le christianisme se présente pour la religion de l'Occident, il y a des aménagements à faire et ça peut s'arranger. Et bien, je reviens finalement à la... Je n'ai pas terminé de vous répondre à la première question. Vous m'avez dit...
Oui. Cette question a été suscitée par le fait que Jésus était escamoté. Il semble que dans la deuxième question, vous escamotiez aussi la notion du miracle. Est-ce parce que...
Ah, j'ai pas répondu à ça. Non, j'ai effectivement pas répondu. Sinon, par allusion. Parce que tout ça, ça s'étudie. Vous comprenez? Tout ça, ça s'étudie. Et de la même manière que j'ai désigné tout à l'heure l'erreur de la conscience paulinienne dans sa définition de la loi, et j'y reviens tout à l'heure. Enfin, je suis d'accord, je continue à être d'accord avec moi-même tout à l'heure. Mais de la même manière, je crois qu'il faut, il faut dénoncer l'envahissement des coordonnées de la conscience magique à travers la conscience philosophique contemporaine lorsqu'elle juge des récits de miracles de la Bible. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein? C'est qu'on presse de ces choses sans les connaître et en les percevant comme s'il s'agissait, comme si la conscience hébraïque était une conscience magique. Il ne s'agit pas du tout. Tout cela s'étudie. Et je reviens en tout cas. Si un jour, hein, dans des centaines d'années, on lit les livres qui ont parlé de la résurrection de l'État d'Israël, en employant le vocabulaire de miracle par rapport ne serait-ce que à la guerre des six jours, hein, eh bien, alors que nous aurons vécu ces événements, et nous saurons bien que ce qui s'est passé dans l'ordre de la nature, et que cependant nous avons expérimenté et perçu, c'est bien entendu une question d'acuité de regard, mais enfin, quiconque peut regarder, et expérimenter et perçu le dévoilement, l'irruption du Dieu d'Israël en Israël, eh bien, alors, si dans des centaines d'années on lit ces livres, qui parle du miracle qui s'est passé le 29 hier, hein, etc., eh bien, on projetterait dessus une conscience magique. Hein. Il y a eu des gens qui ont cru que, mais il ne s'est rien passé. Il s'est quand même passé que 1900 ans après la conquête romaine, Jérusalem a été rendue aux Juifs. Il s'est quand même passé cela.
Et si je comprends bien, vous comparez la guerre des six jours avec l'ouverture de la mer Rouge pour les États-Unis.
Vous auriez dû dire que je compare la guerre des six jours, la sortie de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge avec la guerre des six jours. Mais je vais beaucoup plus loin. Je suis persuadé, et ça s'éclaircira par la suite, je suis persuadé, c'est pas moi qui parle d'ailleurs, c'est l'enseignement que j'ai reçu de mes maîtres, je suis persuadé que ce qui s'est passé de notre temps est certainement plus fort en tant que miracle dans les catégories bibliques que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Et cela se dévoilera dans... Cela sera clair plus tard. Que c'est certainement beaucoup plus fort. Eh bien, en tout cas, revenons à la première question. Et vous m'avez dit, vous avez employé, je crois, le terme de performance. Vous me dites, mais vous parlez du christianisme, vous en parlez du Christ. Mais je vous dirais très très simplement, je crois que ce n'est pas du tout nécessaire. Enfin, je crois que ce n'est pas du tout nécessaire. Le contentieux que nous avons avec la théologie chrétienne, l'ensemble des problèmes peuvent être posés et résolus en mettant absolument entre parenthèses ce mythe. Enfin, parce que finalement, dans la première partie de votre question, tout était clair et cohérent. Enfin, vous parliez du fait que la conscience chrétienne connaît la loi autrement que, comme j'avais dénoncé l'attitude de la conscience paulinienne, qu'il s'agit uniquement de la loi à la romaine ou de la loi à la manière du logos grec. Enfin, et je continue, bien entendu, à penser la même chose. Nous pourrions reprendre ces textes et faire l'exégèse des textes évangéliques et nous verrons de façon très claire que la loi dont on parle dans les évangiles n'a rien à voir avec la Torah. C'est une loi qui est pensée à la manière dont la loi romaine se présente ou dans le juridisme romain ou le légalisme romain se présente et pas du tout à la manière dont les Talmudistes connaissent la Torah. Ça, c'est absolument clair, je pense, doit être absolument clair. Et puis alors, vous ajoutez une deuxième phrase qui fait partie du vocabulaire chrétien et que moi, je vous avoue, ne pas comprendre. Là, nous quittons la cohérence de la pensée humaine universelle. Le fait que la loi est devenue quelqu'un dans la personne d'un personnage que les chrétiens nomment le Christ, et que par conséquent, à partir de ce moment-là, la relation avec la loi n'est plus la relation qu'un personnage avec une personne, mais vous oubliez de dire, entre-temps, que cette confusion d'identité, entre-temps, a évacué la loi comme telle. Et que finalement, en réalité, le Christ n'est pas la loi incarnée pour la conscience chrétienne, mais le Christ est le substitut de la loi. Le Christ va sauver l'homme de la loi. Je dis bien, la fonction du Christ pour la conscience chrétienne est de sauver l'homme du problème moral. Et vous savez bien qu'il en est ainsi pour la conscience chrétienne authentique. Et je crois que cela peut s'expliquer de la manière suivante, qu'en réalité, le chrétien n'a jamais connu la Torah, le chrétien n'a jamais connu la loi telle que les talmudistes la connaissent. Et il suffit de faire une étude de la loi talmudique pour s'apercevoir que ça n'a rien, strictement rien à voir avec une analyse juridique, d'un juridisme quelconque. Et je m'explique, pour reprendre l'ensemble de ces questions, je m'explique, c'est que il y a dans l'identité hébraïque qui se transmet par la tradition juive à travers la charnière de l'enseignement talmudique, la connaissance de ce que la loi veut. C'est, si vous voulez, je ne sais pas quel terme employer, j'emploie le terme de identité, enfin c'est l'âme et le cerveau des talmudistes qui seuls sont capables de servir à la loi.